Bienvenue dans votre émission La Voix du Jazz. Dans l'épisode précédent, nous avions énoncé le genre du hot jazz, un style qui est à l'image de l'improvisation, d'une grande énergie et d'une grande explosivité. Nous avions parlé de Louis Armstrong, trompettiste et chanteur américain, figure majeure du jazz qui marqua l'histoire par sa virtuosité, mais aussi à sa voix rocailleuse. Nous allons continuer sur ce chemin en allant plus en détail dans l'histoire du hot jazz. Surnommé Roi Louis, alors que les séances et tournées se multiplient dans le groupe Creole Jazz Band, entre deux engagements au Lincoln Garden de Chicago, il prend son indépendance lorsqu'il épousa Lil Hardin en février 1924. En septembre de la même année, il est invité à New York pour prendre place dans l'orchestre de Fletcher Anderson, où son arrivée influence l'orchestre de manière déterminante. Suite à cette arrivée, il reçoit beaucoup d'offres au bout d'un an et participe à l'enregistrement de plus d'une centaine sous la direction d'Anderson. Notamment avec par exemple Bessie Smith dans les morceaux dits Saint Louis Blues. Ou Eva Taylor, avec le morceau Cakewalking Babies qu'on verra plus tard, et les petites formations de Clarence Williams, où à plusieurs reprises il croise Sidney Bechet, et notamment avec le morceau et l'un de ses morceaux les plus connus, Texas Mooner Blues. Thank you. De retour en novembre 1925 à Chicago, Louis Armstrong joua partout, notamment au Dreamland Café avec le groupe Syncopators, créé par son épouse, au Vendôme Theater avec Erskine Tate, au Sunset Café, puis au Savoy Ballroom, dont il était la vedette. Également vedette de la Columbia qui venait à ce moment-là de prendre le contrôle du label OK. Il constitue l'orchestre de studio Hot 5 et quelques temps après, il élargit en Hot 7. C'est à partir de là qu'il composa les plus grands chefs-d'œuvre de jazz et qu'il abandonna le cornet pour la trompette. En 1928, le pianiste Lyle Hardin est remplacé par Earl Haynes, où Louis Armstrong trouve enfin le soutien harmonique qu'il recherchait. En 1929, suite à un engagement de 4 mois fait au Connie's Inn de Harlem, il s'installe à New York pour la suite de sa carrière. À New York, dans la continuité de sa carrière, il composa de grands chefs-d'œuvre avec un grand orchestre maison, avec des effectifs plus réduits, dans des petites formations du New Orleans Revival, en tant que trompettiste ou chanteur, lorsque ses lèvres le faisaient trop souffrir. Il lui était trop reproché de représenter à l'Amérique blanche les stéréotypes de l'afro-américain, naïf et simple d'esprit. Mais pour les musiciens jazz et amateurs jazz, il reste l'un des meilleurs trompettistes de tous les temps. De par sa puissance, son intensité sonore, mais aussi par l'ampleur de son expression lyrique, il a été le premier à créer un orchestre orienté vers le soliste, tout en faisant des variations au niveau rythmique, mélodique, en se basant sur les propositions d'accords faits par l'accompagnateur. Concevoir un solo, non pas comme une expression de soi, mais comme une architecture. Il est reconnu aussi pour ses qualités de mise en place et la plage de ses variétés rythmiques. Il est considéré comme le premier grand swingman de l'histoire du jazz. Et du côté de Chicago, à la veille de la grande crise de 1929, la société clandestine se trouve dans une situation complexe suite aux campagnes contre les crimes organisés et aux règlements de compte, ce qui met le commerce du divertissement dans le mal. Et petit à petit, le monde du jazz migre vers celle qu'on appelle la capitale du jazz, New York, ou vers Kansas City. Earl Haynes est l'un des rares jazzmen à être resté, où il joua au Grand Terrace créé en 1928 et contrôlé par le cartel d'Al Capone. Mais avant cette migration d'orchestre et de petits effectifs de Chicago à New York, les patrons de clubs à Chicago se sont mis au frais et les orchestres d'origine néo-orléanaise agrandirent leurs effectifs sous la direction de chefs d'orchestre locaux, comme par exemple Dave Payton, musicien influent de la scène afro-américaine et auteur d'une chronique hebdomadaire dans The Chicago Defender. Il y a aussi Charles Cook, alias Doc Cook, docteur de l'American Conservatory of Chicago, qui employait Jimmy Noon. Alors pour expliquer qui c'est, Jimmy Noon est un clarinettiste jazz des années 1920 qui joua pour Charles Cook, pour l'orchestre Doc Cook Dreamland Orchestra de 1922 à 1927 et qui plus tard créait son orchestre Jimmy Noon's Apex Club et composa plusieurs morceaux qui vont influencer le monde du jazz et surtout un en particulier, I Know That You Know. Il y a aussi un autre cas, Freddie Keppard, qui est un cornettiste de jazz créole des années 1920, qui a été employé pour son style assez intense, très expressif et influencé par les fanfares et les traditions créoles. Il les employa pour apporter à son orchestre des basses solides et montrer que le jazz de la Nouvelle-Orléans est capable de se renouveler tout en préservant les racines de ce style musical. Un autre chef d'orchestre influent de la Nouvelle-Orléans, Carole Dickerson, chef du grand orchestre Savoie, auquel Louis Armstrong emprunta des musiciens pour son second Hot Five et qui les emmena à New York. Erskine Tate, chef d'orchestre au Vandome Theater, dont Armstrong était la vedette, enregistre Static Struck au label Vocalion en 1926. Et voici Static Struck, provenant du label Vocalion. Il y a aussi le cas de Louis Russell, néo-orléanais d'une autre ville, puis s'installe à Chicago, puis à New York dès 1927. Il est aussi à la tête d'un big band qui devient plus tard, dans les années 1930, celui de Louis Armstrong. Tout ça pour montrer que la ville et le jazz de Chicago ne se laissent pas faire, même si le changement de capitale musicale vers New York a impacté la vie de Chicago de manière importante sur le plan musical et économique. Mais pour en revenir, créole de la Nouvelle-Orléans, Jimmy Noon développa à l'Apex Club un style orchestral à la fois original et nuancé. Contrairement à Clarence Williams, qui est donc un pianiste jazz de la même époque, qui a eu une influence dans le développement du jazz classique et du blues de la Nouvelle-Orléans, fidèle au style de la Nouvelle-Orléans avec son groupe Blue Five, il y a avec les studios new-yorkais OK, dont il était devenu directeur artistique après avoir été éditeur à la Nouvelle-Orléans puis à Chicago. Un des morceaux les plus célèbres est Cakewalking Babies, que j'avais cité précédemment, qui a été enregistré en 1925 avec la participation de Louis Armstrong et Sidney Bechet dans les studios OK. Thank you.
syncopators going slow. Look at those demonstrators talk of sound. Green and brown, picking them up and laying them down. Why, you're prancing fools. That's what they like to call them. They're in a class all alone. The only way for them to lose is to cheat them. You may tie them, but you never beat them. Spread your stuff, boy, you won't do nothing different. Cakewalking babies from home.
Arrivé à Chicago en 1917, expulsé de Grande-Bretagne en 1921 et emprisonné en France en 1929, Sidney Bechet était considéré comme quelqu'un d'instable. Sa carrière fut chaotique jusqu'aux années 1930 et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on l'ait oublié. Pourtant, il est considéré aujourd'hui avec l'un si ce n'est le premier soliste de jazz, avec Louis Armstrong. Avant les années 1920, le jazz était une musique collective, l'improvisation se faisait en groupe, sans qu'un musicien ne prenne les devants sur les autres. Bechet se distinguait par ses phrases mélodiques, puissantes, personnelles et expressives. Imposant sa voix d'une manière assez forte, c'est ce qui créa la mise en avant d'un soliste lors de son improvisation et la pratique de cette règle à ce jour. On peut voir cette mise en avant avec le morceau Wild Cat Blues, enregistré en 1923 avec Clarence Williams. Dans la revue de la Suisse normande datant d'octobre 1919, le chef d'orchestre Ernest Ansermet remarqua Sidney Bechet au Philharmonic Hall de Londres lorsqu'il joua avec l'orchestre Southern Syncopated de Will Marion Cook, et il écrit dans cette revue ceci. Il y a au Southern Syncopated Orchestra un extraordinaire virtuose clarinettiste qui, paraît-il, le premier de sa race à avoir composé sur la clarinette du blues d'une forme achevée. Il donnait déjà l'idée d'un style, et la forme en était saisissante, abrupte, heurtée, avec une fin brusque et impitoyable, comme celle du deuxième concerto brandebourgeois de Bach. Quelque chose d'émouvant que la rencontre de ce grand garçon noir qui ne sait rien dire de son art, sauf qu'il suit son own way, sa propre voie, et quand on sait que own way est peut-être la grande route où le monde s'engouffrera demain. Les seules traces qu'on a de Sidney, ce sont ses enregistrements, avec Clarence Williams comme cité dans le dernier extrait. À travers ces figures emblématiques comme Louis Armstrong, Sidney Bechet ou Jimmy Noon, c'est tout l'âme du jazz des années 1920 qui s'exprime. Une musique en mutation, entre tradition créole et modernité urbaine, entre Chicago et New York. Tandis que certains disparaissent peu à peu des radars, leurs sons, eux, continuent de résonner. Car si les archives s'effacent, les notes demeurent. Le jazz est un mouvement, une invention, un souffle. Et c'est bien cette voix singulière, cette own way que Sidney Bechet revendiquait déjà en 1919, qui annonce ce que deviendra la musique du XXe siècle. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle immersion dans la voix du jazz.